Il était sur son char.
Amateur,
propagande. Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.
Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle. Aujourd'hui, Mathilde Éloi, Maxime Bozonnet, Nicolas Guépin, Charlotte Touilleux et Emmanuel Mehring vont vous lire des textes de Dorothy Parker, novelliste américaine des années 30. Janvier 1919. Souvent, pendant ces longues heures silencieuses où je suis coincée dans le métro, assise dans la salle d'attente d'un dentiste, ou quand j'attends un taxi pour Broadway, je me languis tristement du bon vieux temps à jamais révolu. C'était la belle époque. L'époque où les gens se précipitaient gaiement au théâtre, en savouraient chaque minute, applaudissaient avec enthousiasme, en réclamaient encore et ressortaient le visage rayonnant, impatient d'annoncer l'heureuse nouvelle.
Le spectacle est génial, c'est super,
non mais génial. Waouh, mais quel spectacle!
Il y en avait même qui pouvaient retourner voir la même pièce plusieurs fois de suite. Ah, pas de doute, c'était vraiment la belle époque. C'est atroce comme les choses ont pu changer. Aujourd'hui, aller au théâtre est devenu un acte héroïque. On espère toujours, avec une crédulité qui fait pitié, que ce ne sera peut-être pas si mauvais cette fois-ci. Et en même temps, on est terrassé d'inquiétude. On a cette peur amère, fruit de notre cruelle expérience, de s'apercevoir que ce sera sans doute encore pire. On reste patiemment assis jusqu'à pouvoir décemment partir, et puis on sort avec notre air. Ma foi, Dieu merci, c'est fini pour ce soir. Plus personne ne se jette sur vous dans la rue à la sortie du théâtre en s'écriant « Il faut absolument que vous alliez voir ce spectacle. C'est la meilleure chose qu'on ait jamais montée. J'y suis allée tous les soirs de la semaine et je vais de ce pas m'acheter des places en matinée pour demain. » Est-ce qu'on entend des choses comme ça aujourd'hui? Sans hésitation, la réponse se fait l'écho de la question.
Certainement pas.
Demandez à quiconque ce qu'il a pensé du spectacle qu'il est allé voir hier soir. Allez-y, demandez-lui.
Alors, t'en as pensé quoi, c'était bien, vas-y, raconte.
En général, la réponse, encore faut-il qu'il se souvienne de la pièce, se résume à un grognement sourd suivi de paroles affligées. La pire que j'ai jamais pu supporter. Et la réponse la plus enthousiaste que vous puissiez obtenir sera un regard froid et une réponse peu flatteuse. Ma foi, peut-être que vous la trouverez à votre goût. Mais, enfin, que se passe-t-il? Est-ce le tourbillon de la vie moderne qui nous rend froid et blasé? Ou bien sont-ce les pièces qui sont empoisonnées de nature? Personnellement, je pencherai légèrement pour la deuxième théorie. Et les nouvelles pièces ne font que confirmer, sans réserve, mon jugement.
Hymne à la haine. Je hais le théâtre. Il mord sur mon temps de sommeil.
Il y a la pièce BCBG, où vous pouvez emmener tante Emma après une journée passée à visiter le quartier des affaires. Le héros est bien de chez nous, vie sans tache, pantalon sans faux plis, une pépite à l'état brut. Il n'est peut-être pas très fort en grammaire, mais il aime les enfants et couche à la belle étoile. L'héroïne le houspille à l'acte 1. Mais Quand il fait remarquer que l'aristocratie est passée de mode et que, bonne nouvelle, le pétrole coule à flot dans son modeste puits, elle se rend à la raison. Si bien qu'à 11h du soir, au tombé du rideau, ils peuvent partir ensemble pour le Grand Ouest et l'air pur. 3 heures trop tard. Et puis, la pièce sur le Grand Nord, celle qui vous donne à penser. À penser que vous auriez mieux fait d'aller au cinéma. Elle est traduite du norvégien, mais on pourrait aussi bien la donner dans l'original. L'éclairage est si sombre qu'on peut à peine distinguer le visage des acteurs, ce qui vaut peut-être mieux. L'héroïne est invariablement incomprise, sans doute à cause de son accent. C'est une bonne petite jeune fille qui tombe amoureuse d'un obscur comparse. Ou qui s'aperçoit qu'elle a épousé, par erreur, son oncle. Ou qui sort dans la nuit en claquant la porte. Tandis que peu à peu le drame se noue et va culminer dans un gentil petit suicide, un cas de folie prometteur. Explique-leur, Ibsen, que tu as acquis les droits scandinaves. De sens et l'esprit y triomphe mieux encore que chez Maeterlinck. Les acteurs y incarnent la lumière, la joie, la beauté, l'imagination. Tandis que le public figure l'ennui et l'ahurissement. Le personnage principal est en quête du bonheur. Après l'avoir cherché pendant 4 actes, 27 scènes, aidé par une troupe de 300 figurants, sans compter les machinistes, il le découvre finalement à sa porte. Que le ciel ne lui a-t-il permis de regarder d'abord sous le paillasson? Je hais le théâtre. Il mord sur mon temps de sommeil.
Le jeune homme à la cravate à ramages jeta un coup d'œil inquiet sur la jeune fille en robe à fleurs assise sur le canapé et plongée dans la contemplation de son mouchoir. C'était apparemment le premier mouchoir de ce genre qu'elle voyait, à en juger par l'intérêt qu'elle semblait porter à sa forme, à sa consistance et à ses emplois possibles. Le jeune homme se racla la gorge sans nécessité ni résultat, produisant un petit son rauque et syncopé.
Cigarette?
Non, merci. Merci quand même d'y avoir pensé.
Je suis désolé de n'avoir que celle-là. Tu n'as pas les tiennes?
J'en sais rien, je les ai sans doute. Merci.
Non, parce que si tu ne les avais pas, j'en aurais pour une minute d'aller t'en chercher au bureau de tabac du coin.
Merci mille fois, mais pour rien au monde, je ne voudrais te déranger pour si peu. C'est très gentil de ta part de me le proposer. Merci encore.
Oh, je t'en prie, celle de me remercier tout le temps.
Je dois dire que c'est la première fois que j'entends reprocher à quelqu'un de dire merci. Je suis désolée si je t'ai froissé. Je sais ce que c'est d'être froissé, mais je ne pouvais pas me douter que c'était une insulte de dire merci à quelqu'un. Je n'ai pas l'habitude d'être traité de tous les noms parce que je dis merci.
Mais je ne t'ai pas traité de tous les noms.
Ah non ? J'avais cru.
Mais bon sang, c'est... Ce n'est tout de même pas un crime de t'avoir demandé si tu voulais que j'aille te chercher des cigarettes. Il n'y a pas de quoi se mettre dans tous ces états.
Qui est dans tous ces états ? Je ne vois pas ce qu'il y a de blessant dans le fait de te dire que je ne voudrais pas te déranger pour si peu. Sans doute suis-je complètement bouchée.
Veux-tu, oui ou non, que j'aille te chercher des cigarettes ?
Mais bon Dieu, mais va les chercher ces cigarettes si tu en as tellement envie. Ne te gêne pas. Je ne voudrais surtout pas que tu te sentes obligée de rester près de moi.
Oh, ne sois pas comme ça, je t'en prie.
Ne sois pas comme quoi ? Je suis comme je suis, c'est tout.
Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ?
Absolument rien. Pourquoi ?
Tu étais bizarre toute la soirée. Tu m'as à peine adressé la parole depuis que je suis arrivée.
Oh, je suis au désespoir de t'avoir gâché cette soirée. Pour l'amour du ciel, ne te crois pas obligée de rester ici à t'embêter. Je suis sûre qu'il y a un tas d'endroits où tu t'amuserais bien plus. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas y avoir pensé plus tôt, c'est tout. Quand tu m'as dit que tu viendrais ce soir, j'ai décommandé plusieurs rendez-vous, mais cela n'a aucune importance. Je préfère 1000 fois que tu t'en ailles et que l'un de nous deux, au moins, passe une bonne soirée. Si tu crois que c'est drôle de passer la soirée à côté de quelqu'un qui s'ennuie à mourir...
Où as-tu appris que je m'ennuyais ? Je n'ai aucune envie d'aller ailleurs. Bon, chérie, tu ne veux pas me dire ce qui ne va pas ? S'il te plaît.
Je ne sais absolument pas à quoi tu fais allusion. Tout va comme d'habitude, je ne sais pas ce que tu veux dire.
Si, tu le sais très bien, il y a forcément une raison pour que tu sois comme ça. Bon, est-ce que je t'ai dit ou fait quelque chose ? Ou quoi ?
D'abord, ce que tu fais ne me regarde absolument pas. Tu es libre. À quel titre m'arrogerais-je le droit de te faire une critique ?
Est-ce que tu vas employer ce ton-là longtemps ?
Quel ton ?
Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Tu avais d'ailleurs ce ton-là au téléphone ce matin déjà. Tu étais tellement pimbèche quand je t'ai appelé que je ne savais pas par quel bout te prendre.
Je te demande pardon ? Quel mot as-tu dit ?
Pardonne-moi, je n'ai pas voulu dire ça, mais je suis tellement énervée.
Figure-toi que je n'ai pas l'habitude d'être traitée de cette façon. On ne m'a encore jamais dit une chose pareille.
Je te répète que je regrette sincèrement. Chérie, je ne pensais pas ce que je disais. Je ne sais pas ce qui a pu me faire dire une chose pareille. Tu veux bien me pardonner ?
Oh, mais certainement. Je t'en prie, ne te crois pas tenue à me faire des excuses. Tout cela n'a aucune importance. Simplement, ça fait un drôle d'effet de voir quelqu'un qu'on considérait comme un garçon bien élevé venir chez vous pour vous parler sur ce ton. Mais cela dit, ça n'a pas la moindre importance.
Je suppose que rien de ce que je peux dire n'a d'importance pour toi. Tu m'en veux ?
Moi ? T'en vouloir ? Tu es fou. Je me demande ce qui a bien pu te mettre cette idée dans la tête. Et pourquoi t'en voudrais-je, s'il te plaît ?
C'est justement ce que je me tue à te demander. Tu ne veux pas me dire ce que je t'ai fait ? Est-ce que je t'ai fait de la peine, chérie ? J'ai passé la journée à me poser des questions. Après t'avoir entendu au téléphone, j'ai été incapable de travailler.
Oh, je serais désolée d'être une entrave à ton travail. Je sais qu'il y a beaucoup de filles à qui ce serait complètement égal. Mais moi, ce n'est pas mon genre. Et je trouve très désobligeant de t'entendre dire que je t'empêche de travailler.
Mais je n'ai jamais dit cela. J'ai jamais dit une chose pareille.
Ah non ? C'est drôle, j'avais cru l'entendre. Oh, ce doit être encore une bêtise de ma part.
Non, je crois que je ferais mieux de m'en aller. Je ne trouve pas les mots qu'il faut et tu prends tout ce que je dis en mauvaise part. Tu préfères que je m'en aille, c'est ça ?
Je t'en prie, fais exactement comme il te plaira. Mais surtout, ne reste pas ici si tu as envie d'être ailleurs. Qu'est-ce que tu attends pour aller chez Florence Liming, par exemple ? Je suis convaincue qu'elle serait ravie de te voir.
Je n'ai pas la moindre envie d'aller chez Florence Liming. Pourquoi aurais-je envie d'aller chez Florence Liming ? Elle me court sur le système, cette fille.
Oh, tiens, tiens, elle n'avait pas tellement l'air de te courir sur le système hier soir chez Elsie, d'après ce que j'ai pu voir. Elle te courait tellement sur le système que tu ne l'as pas quittée de la soirée, oui ?
Oui, et tu sais pourquoi je ne l'ai pas quittée ?
Je suppose que tu lui trouves du charme. Il y a des gens qui lui en trouvent. Parfaitement normal, après tout. Il y a même des gens qui la trouvent jolie.
Je serais bien incapable de dire si elle est jolie ou non. Je la reconnaîtrais à peine si je la voyais. Je lui parlais pour la simple raison que tu n'as pas daigné m'adresser la parole hier soir. Je suis venu près de toi, j'ai essayé d'engager la conversation et tout ce que tu m'as dit, c'est « Tiens, bonsoir ». Et sur un ton « Tiens, bonsoir ». Il m'a tourné le dos sans m'écouter.
Sans t'écouter ? Ah, ça c'est le plus beau, c'est le bouquet. Laisse-moi rire, veux-tu ?
Ris tant que tu voudras, ça ne changera rien.
Tu étais à peine entré dans la pièce que tu commençais à faire un de ces gringues à Florence Liming. On avait l'impression que plus personne n'existait. Vous aviez l'air si bien ensemble que je m'en serais voulu de troubler un duo aussi parfait.
Mais nom d'un chien, c'est Florence machin truc qui m'a harponné et qui a commencé à me parler avant même que j'ai eu le temps de voir qui que ce soit. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je ne pouvais tout de même pas lui mettre ma main à la figure, non?
En tout cas, tu n'as guère essayé.
Mais par contre, j'essaie de te parler à toi. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Tiens, bonsoir. Et cette Florence, machin truc de malheur, est venue me relancer. Je me suis retrouvé coincé. Florence, Liming, je la trouve infecte, si tu veux mon avis. C'est une gourde première. Voilà ce que j'en pense.
Naturellement. C'est l'impression qu'elle m'avait toujours donnée. Mais je sais pas, moi, j'ai entendu certaines personnes dire qu'elle était jolie. Je t'assure.
En tout cas, elle ne veut pas être jolie dans la même pièce que toi.
Elle a effectivement un très drôle de nez. On peut s'empêcher d'avoir de la peine pour une fille qui a un nez pareil.
Elle a un nez affreux. Toi, tu as un joli nez.
Oh, tu trouves?
C'est fou, et des yeux ravissants. Et des cheveux ravissants, et une bouche ravissante, et des mains ravissantes aussi. Donne-moi une de ces jolies mains. Alors, regarde-moi cette petite main. Qui est-ce qui a les plus jolies mains du monde? Qui est la plus adorable fille du monde?
Je sais pas. Qui?
Ne fais pas semblant de ne pas savoir, tu le sais très bien.
Non, je sais pas. Qui? Florence Liming?
Florence Liming, tu parles. Être jalouse de Florence Liming. Et moi qui n'ai pas dormi de la nuit et qui n'ai pas pu faire un poil de travail de toute la journée parce que tu n'avais pas été gentille avec moi ce matin. Une fille comme toi, jalouse d'une fille comme Florence Liming.
Oh, tu es complètement piquée. Je n'ai jamais été jalouse. Je me demande où tu as été chercher une idée pareille. Oh, je t'assure, tu es fou. Oh, attention, à mon collier de perles. Attends que je l'enlève. Attends, une seconde. Là. Oh.
Je hais les hommes. Ils ont le don de m'irriter.
Il y a d'abord les penseurs austères.
On devrait faire une loi contre eux.
Ils voient la vie en sombre, derrière leurs lunettes cercles et d'écailles. Ne cesse de penser de passer une main lasse sur un front toujours blême. Il parle de l'humanité, comme s'il venait de l'inventer. Ils se doivent de l'aider, de la soutenir. Ils se réjouissent des grèves, signent sans fin des pétitions, accomplissent des choses merveilleuses au nom des prolétaires, vont jusqu'à s'installer parmi eux. Ils vivent dans la fébrile attente de voir les masses à la une des kiosques et lisent tous ces romans russes, vous savez? Ces best-sellers du sexe. Et puis, les monsieur muscles.
Vrais spécimens de l'homme des cavernes.
Tout ce qu'ils mangent, ils le mangent cru. Font trempette dans des bains d'eau glacée. Laissent tâter leurs biceps à la ronde. Par le haut, et n'usant que de termes anglo-saxons du genre bref. Ne cesse d'ouvrir les fenêtres et de donner des tapes dans le dos des gens en leur disant qu'ils ont besoin de faire de l'exercice. Ils sont toujours sur le point de partir, à pied, à San Francisco, ou de traverser l'océan en voilier, ou d'écumer la Russie en traîneau. Et moi, je prie Dieu qu'ils le fassent. On compte aussi chez ces messieurs quelques âmes sensibles à donner à la décoration d'intérieur par amour de l'art. Cela fleure toujours un léger parfum de vanille, humecte leurs cigarettes de quelques gouttes de santal. Tout leur est prétexte pour organiser des bals costumés, ce qui leur permet de se donner l'air d'un qui sortirait des mille et une nuits. Ils donnent des thés. Le plus souvent dans des studios où l'on convie les hôtes à s'asseoir gentiment en cercle sur des coussins. Lesquels hôtes se demandent ce qu'ils sont venus faire là. Ils dévisagent les femmes d'un air langoureux, paupières mi-closes, et leur disent à voix basse, sur un ton passionné, ce qui leur siérait de porter. Pour eux, la couleur est tout, absolument tout. Et la plus légère ombre de pourpre leur colle une dépression nerveuse.
Et puis,
Il y a ceux qui baignent dans le crime. Ils vous confient qu'ils ne se sont pas couchés de 4 nuits. Ils fréquentent des drames où les seuls vers dignes d'intérêt sont ceux qui ructent le cœur. Ils titubent d'un cabaret à l'autre et vous font le compte exact de leur dette de jeu. Ils ruminent sombrement sous le rôle atroce que l'alcool joue dans leur vie. Puis ils secouent la tête et s'en remettent au ciel qui décidera de leur sort. Si seulement j'étais le ciel.
Je hais les hommes. Ils ont le don de mériter.
Je le savais. Je savais que si je venais à ce dîner, j'allais me retrouver avec ce genre de petite merveille à ma gauche. Il me le garde au chaud depuis des semaines. Oh, mais il faut absolument qu'on l'invite. Sa sœur s'est montrée si gentille avec nous à Londres. On n'a qu'à le coller à côté de Madame Parker. Elle a bien assez de conversation pour deux. Oh, j'aurais jamais dû venir. Jamais. Je suis ici contre mon gré. Vendredi, 20h30, Madame Parker, contre son gré, a statué. Pas mal, il pourrait graver ça sur ma tombe. Où qu'elle se soit rendue, y compris ici, ce ne fut jamais de son plein gré. Est-ce bien raisonnable de penser à des tombes juste en début de soirée? Voilà l'effet que mon voisin a sur moi déjà. Et la soupe n'est pas encore refroidie. J'aurais dû rester dîner à la maison. J'aurais pu me servir quelque chose sur un plateau. La tête de Saint-Jean-Baptiste, par exemple. Oh, j'aurais jamais dû venir. Bon, la soupe est finie, c'est déjà ça. Déjà ça qui me rapproche de mon éternelle demeure. La soupe fait partie du passé et j'ai dit en tout et pour tout 5 mots au monsieur à ma gauche. J'ai dit...
Délicieuse soupe, n'est-ce pas ?
Ça fait 5 mots et lui a dit...
Oui, n'est-ce pas ?
Ce qui fait 4. Il me bat d'un point. En tout cas, nous sommes parfaitement d'accord. Nous nous entendons comme 2 moutons. Nous avons passé toute la soupe ensemble et pas un mot de travers entre nous. Ce serait vraiment dommage de changer de sujet. Autant s'en tenir à cette admirable harmonie. Je crois bien que je vais remettre le sujet sur le tapis. Je vais lui demander si la soupe n'était pas délicieuse. La soupe n'était-elle pas délicieuse ?
Oui, n'était-elle pas ?
Mais regardez-moi cette admirable concordance des temps. Je me demande s'il aime le poisson. Oui, il aime le poisson. Il dit qu'il aime le poisson. Ah, tant mieux. J'adore ça chez un homme. Regardez, il parle. Il me demande si j'aime le poisson. Veut-il vraiment savoir ou me fait-il marcher ? Mieux vaut jouer la méfiance. Je vais répondre.
Oh, assez.
Oh, j'aime assez le poisson. Voilà un chapitre fascinant de mon autobiographie sur lequel se pencher. Peut-être préférera-t-il y réfléchir en toute tranquillité. Je vais m'esquiver discrètement et le laisser méditer. Je pourrais tenter ma chance avec ce que j'ai à ma droite. Non, aucune chance de ce côté-là, sa voisine de l'autre côté se l'a accaparée. Moi, je n'ai droit qu'à son épaule. C'est une belle épaule, cela dit. Ah, c'est une belle, belle épaule. Depuis toute petite, je voue une passion folle aux belles épaules. Très bien, ma petite dame, gardez-le, votre dieu grec. Vous l'avez vu la première. Moi, je retourne à mon cheval de Troie. Voyons voir, où en étions-nous ? Ah oui, nous en étions au moment où il me déclarait son amour pour le poisson. Je me demande bien ce qu'il aime d'autre. Est-ce qu'il aime les concombres ? Oui, il aime les concombres. Et les patates ? Oui, il aime les patates aussi. Ma foi, c'est un sacré vieil amoureux de la nature, celui-là. C'est tout moi, ça. Je sors dîner et je me retrouve assise à côté du bon gars taureau. Attendez. Il est en train de me dire quelque chose. Ma parole, les mots jaillissent hors de lui. Il me demande si j'aime les patates. Non ! Je n'aime pas les patates. Ah, oh, ça y est, j'ai créé un différend. C'est notre première dispute. Il sombre dans un silence boudeur. Oh, ne le prends pas comme ça. Écoute, j'ai quelque chose à te dire qui va te redonner la foi. J'aime les concombres. Ma parole, il se sent déjà mieux. Il se remet à parler. Voilà, comme ça, tout est arrangé. Dieu merci. Nous aimons tous les deux les concombres. Seulement lui, il les aime deux fois plus. Je ferais mieux de le laisser tranquille. Maintenant, il faut qu'il se nourrisse. Il faut absolument qu'il reprenne des forces. Il a parlé à s'en étourdir. Si seulement j'avais quelque chose à faire. Je déteste rester là comme ça sans rien faire. Les gens devraient vous prévenir quand ils vont vous asseoir à côté d'un truc pareil pour que vous puissiez apporter de quoi vous occuper. J'aurais pu apporter le tiroir du dessus de mon bureau, ça aurait été l'occasion d'y mettre un peu d'ordre ici sur mes genoux. Ou bien l'album photo, histoire d'y coller enfin les photos de toute la bande sur la plage. Je me demande si mon hôtesse trouverait ça bizarre que je lui demande un jeu de cartes. Je me demande s'il n'aurait pas besoin d'un petit coup de main à la cuisine. Je me demande si ça ne ferait pas plaisir à quelqu'un que je fasse un saut au coin de la rue pour acheter le journal du soir. Bien sûr, je peux toujours boire. Toute seule. Dans mon coin. Il y a toujours cette possibilité. Je ne veux pas boire, j'aurai le vin triste. Qu'est-ce qu'il dirait le gros balourd à ma gauche si je lui disais que c'est bien parti pour que j'aie le vin triste?
Non.
Il s'en fout. Tout le monde s'en moque. Tout le monde s'en fout. Et moi, si gentille. Très bien, bande de bourriques, je vais me saouler à mort juste devant vos yeux et je verrai bien ce que ça vous fait. C'est parti. Oh mon Dieu, c'est du chablis. Et de l'année où les raisins ont failli quand ils ont utilisé des courgettes à la place. Oh, mais dites-moi d'où je viens, c'est avec ça qu'on nourrit les cochons. Je crois que je vais demander au vieux moulin à parole à ma gauche si c'est pas du vin pourri, ça. Rien de tel pour relancer notre petite scolastique dialectique. Oh, il dit que vraiment, il ne saurait dire « Monsieur ne touche jamais au vin ». Eh bien, voilà qui clôt joliment le sujet. Et ça lui dirait d'aller en enfer par hasard? Ne touche jamais au vin? Ah bah tu sais pas ce que tu perds. Je vais plus lui adresser la parole. Je ne vais pas passer le restant de mes jours à jeter des perles aux pourceaux. Je vais me contenter de mon chablis, aussi pourri soit-il. À partir de maintenant, il n'a qu'à aller faire sa vie, moi je fais la mienne. Je suis mieux que tout le monde à cette table.
Non.
Mais le suis-je vraiment? Après tout, ai-je la moitié de ce qu'ils ont? Je suis là, toute solitaire, toute non désirée, toute silencieuse. Moi qui ai sorti mes habits tout neufs. C'est la vie, j'imagine. Pauvre petite chose que nous sommes. Nous nous habillons, nous bâtissons des plans, nous espérons. Et pourquoi exactement? C'est quoi la vie d'abord? Une sentence de mort. Le chemin le plus long entre deux points. La botte de foin attachée au nez de la mule fatiguée. La... Tiens, nous voilà à l'entrecôte. Alors là, plutôt mourir que de demander au vieux Locas s'il aime la viande. D'abord, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, je m'en fous. Je suis bien contente qu'il y ait du vin rouge à présent. Même s'il n'est pas bon, je suis bien contente. Le vin rouge me donne du courage. La conquête du courage. Ah, j'ai besoin de courage. Je suis sur la corde raide ici. Personne ne sait à quel point je passe un moment abominable. Ma précieuse soirée qui ne reviendra jamais ruinée, et tout ça à cause du monologueur de service à ma gauche. Mais il ne mourra pas. La nuit ne se meurt pas encore, ni n'est mourante. Vous savez, ce vin n'est vraiment pas si mauvais que ça. Dites, à votre avis, que se passe-t-il avec le dieu grec à ma droite? Ah, peine perdue. Je n'ai toujours droit qu'à l'épaule, la jolie, jolie épaule. Je me demande à quoi elle ressemble, la femme qui se l'est accaparée. Je me demande si elle est belle. Je me demande si elle est grecque, elle aussi.
Mais je...
Ne pensez pas une seule minute, ma petite dame, que j'ai laissé tomber. Il se sert encore de son couteau et de sa fourchette. Tant que ses mains restent au-dessus de la table, c'est qu'il y a de l'espoir. Oh, regardez, boucle d'or est repartie. Ma parole, il est ivre de lui-même. Il se lâche complètement. Il me demande si j'aime la salade. Oui, j'aime la salade. Qu'est-ce qu'il en dit? Il me parle de l'évolution de la salade à travers les âges. Il dit que c'est si bon pour la santé. De grâce, Dieu, aidez-moi. S'il me fait un cours sur les légumineuses, je lui mets une claque. Si c'est pas l'histoire de ma vie, ça. Me retrouvez-la, habillée sur mon 31, forcée d'écouter cette chose qui me parle de romaine. Et pendant tout ce temps-là, juste à ma droite.
Man, there goes Mac the Knife.
La femme au manteau beau des léopards et l'homme au cache-nez bleu gentiane se tortillèrent dans l'obscurité le long des allées bordées de tables du speakeasy.
Attends, n'importe où, on reste qu'une minute. Ah d'accord, voilà une table. Ça va ici, non?
Oh oui, parfait.
Ils s'assirent. Un petit gars trapu en chemise, les manches retroussées, apparut à leur côté. Il leur sourit amicalement.
Salut, gosse.
Fit l'homme au cache-nez bleu gentiane.
On reste qu'une minute, hein.
Apporte-nous donc deux spéciales.
Et vite fait, tu veux, hein? Bon. Qu'est-ce que tu veux de façon de spéciale, chérie, hein? Bon, alors deux spéciales, Gus, hein. Dépêche-toi. Je dois pas rentrer trop tard, j'ai une journée horrible.
Gus disparut.
Tu veux enlever ton manteau?
Oh, je ne crois pas. Ce n'est pas la peine.
Non, c'est pas la peine, c'est vrai. Tout ce qu'il faut, c'est que je me couche tôt. Faut que je sois à l'aube demain au bureau, hein, sans mentir. Tu parles d'une journée qui m'attend, pigre, quelle journée.
Oh,
et ce type
mon
de
pauvre
Détroit, ce type de Détroit sera là à 9h. J'ai une réunion à 10h30. Et il faut que nous rédigeons les contrats à midi. Et ensuite, je déjeune avec DJ. Et puis il faut que je remette les comptes rendus, et puis j'ai Dieu seul sait combien de rendez-vous tout l'après-midi. Oh bah j'ai vraiment pas grand-chose à faire moi demain, pas grand-chose du tout, Il faut vraiment que je sois downtown à l'aube. Je peux pas débouler au bureau à 11h comme d'habitude depuis que je le fais. Oh. Parfait Gus, pose-les là, oui c'est bien. Bon, c'est parti. Il est bien, tiens.
Oh, il est excellent. Mais il est fort.
Ah oui, c'est vrai qu'ils sont assez puissants. Moi, ouais, ça fera du bien. Ça peut faire de mal à personne si on n'en prend qu'un ou deux. Et puis qu'on se couche tôt. C'est de ne pas se coucher avant l'aube qui achève son homme. Moi, je le ferai plus. À partir de ce soir, je ne prendrai plus que un verre ou deux. Et je serai au lit avant minuit. Comme ça, j'irai pas au bureau à reculons pour prendre à l'aube, tu vois.
Tu as bien.
Mais c'est la seule chose à faire. J'en ai assez, la doute, la machin. Je bois sacrément trop ces derniers temps. Tout le monde me dit que j'ai l'air mal foutu. J'ai l'air mal foutu, pas vrai?
Ma foi, je ne trouve pas du tout. Tu as l'air un peu fatigué parfois, comme tout le monde. Mais je te trouve en pleine forme. Ouais. Je te trouve en excellente forme.
C'est toi qui le dis. Je suis mal foutu, je le sais. Bon allez, finis le tien, qu'on en prenne un autre.
August, deux spéciales.
Illico, hein. Tu parles d'une journée demain.
Ah, oh, je sais. Pauvre petit.
Défais un peu ton manteau, non? Tu t'auras froid en sortant.
D'accord. Tu ne devrais pas enlever ton cache-nez, toi?
Ouais, c'est vrai, je ferais bien. Fait chaud ici, hein. L'air est vicié dans ces endroits. C'est mauvais pour la santé, je suis sûr. Mais c'est terminé, les speakeasy. Y'a rien de pire. Ah.
Bravo.
Merci, Gus. Voilà ce que j'appelle du service. Bon. C'est parti.
En tout cas, tu as bien raison.
Tu sais ce que je pourrais faire? Je pourrais carrément me mettre au régime sec. Ça me ferait pas de mal. Faudrait que je m'y essaye quelque temps. Puis ça te ferait pas de mal non plus d'ailleurs.
Je ne bois pas tant que ça.
Tu t'en tires pas si mal, bébé. Tout le monde boit trop. Y'a de quoi s'empoisonner. Je me demande comment on fait pour toujours être en vie avec tout ce qu'on boit. Je vais me mettre au régime sec. Allez, finis ton verre, tu veux ?
Non, merci.
Ouais, t'es sûr ?
Non, vraiment.
Je sais ce qu'on va faire. Étant donné que je vais me mettre au régime sec, et que ça te ferait beaucoup de bien à toi aussi, chérie. Honnêtement, ça te ferait du bien. On peut aussi bien reprendre un petit, ce soir-là. Qu'est-ce que t'en dis ?
Ma foi, si tu veux. Pour tout dire, cela ne m'ont absolument rien fait.
Ah, moi non plus. C'est du vol. Hey Gus, deux autres spéciales. Et mets quelque chose dedans cette fois, hein. Puis n'oublie pas qu'on est pressé. Mon Dieu, faut que je sois au bureau à l'heure demain. J'ai la pire journée de ma vie.
Oh, je sais.
Ouais. Oh, t'as raison. Enlève ton manteau. C'est l'enfer ici, tellement il fait chaud. Tiens, attends. J'enlève le mien, et puis je vais t'aider. Voilà. Ça va, ma douce ?
Oh, très bien ! C'est drôle que ces verres ne m'aient absolument rien fait, non ?
Ça, c'est parce qu'on boit beaucoup trop. On boit tous beaucoup trop. C'est ce qui est beau quand on se met au régime sec. Quand tu as arrêté et que tu bois un ou deux verres, ça te fout un de ces coups de fouet que t'as pas besoin d'en prendre d'autres. Mais quand tu picoles, tu vois ce que je veux dire quand tu picoles ? Bon. Eh bah, il faut se remettre à niveau avant de sentir quoi que ce soit, tu vois. Merci, Gus. C'est parfait. Bon, c'est parti.
Il est bien, celui-là.
Ah bah, ça c'est sûr. Il y a quelque chose dedans cette fois, ça change tout. Oh bah, ceux qui vous escroqueraient le mieux qu'ils peuvent dans ce genre d'endroit, ouais, ouais. Bah, faut les surveiller. Pourquoi j'en ai marre de ces gens. Bah, je suis bien content de me mettre au régime sec. C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis longtemps. Et arrête de le bercer comme ça, ton verre, chérie, bois-le. Tu vois, regarde, comme ça. Allez, vas-y. Allez, voilà. Voilà, c'est mieux. Maintenant, peut-être que tu t'en souviendras. Tu iras nulle part si tu le sirotes, ton verre. Allez, allez, encore une gorgée. Encore une gorgée. C'est bien, ma grande.
Auguste, deux autres spéciales, tant qu'il est. Hein ?
Mais tu es fou, on n'a pas encore fini cela.
Oh, on les aura descendus le temps qu'il apporte les autres. Ça nous évitera de pouvoir ôter cette table, tu vois. Puis il faut qu'on fasse vite, hein, je t'assure. Faut que je sois, parce que toi tu viens pas. Et moi, faut que je sois au bureau à l'aube demain. Tu parles d'une journée.
Oui, je sais.
Ouais, moi donc, allez, dépêche-toi, chérie, finis ton verre. T'as fini ? Bon, allez, finis-le, arrête de trinasser. Arrête de trinasser. Voilà, comme ça, c'est bien. Ah bah tiens, voilà Gus.
Beau travail, Gus.
Hey, Gus, c'est mon ami.
Pas vrai, Gus ?
Bien sûr que t'es mon ami. Gus et moi, on est de vieux amis. Bon, allez, c'est parti, chérie. Tiens. Prends un petit dernier. Mais c'est bien, ça te fera dormir.
Mais je dors plutôt bien en général.
Bah inutile de discuter. Hein. Moi il me faut plus de sommeil. Je suis mal foutu. Ma mère se fait un sang d'encre à cause de moi. À chaque fois qu'elle m'écrit, elle me dit prends soin de toi. Ouais bah je prends joliment soin de moi. Elle peut se faire du souci. Je suis un type bien moi. Tu sais quoi ? J'ai pas écrit à ma mère depuis 3 semaines. C'est gentil hein.
Il faut absolument que tu lui écrives.
Et je le trouve où, le foutu temps de lui écrire. J'ai pas le temps d'écrire des lettres, moi. Mon Dieu, faut que j'écrive à ma mère. Bah, demain je lui écris. Ah ! Judas, demain. Demain je peux pas. Demain j'ai une journée horrible. Demain, c'est horrible. Demain c'est horrible, horrible.
Ah oui.
J'ai tellement de choses à faire. J'aurai même pas le temps d'écrire à ma pauvre, tendre mère. Si c'est pas avoir une journée horrible, ça. Pas étonnant que ma pauvre et tendre mère se fasse du souci. Elle se fait un sang d'encre à cause de moi. Tu m'aimes pas, toi.
Mais si.
Ouais, c'est...
Mais parfaitement, mais... Qu'est-ce qui te prend de dire un truc pareil ?
Je sais.
T'en sais des choses, hein ? Oh, ça doit être génial de savoir autant de choses que toi. Tu me rends malade.
Je sais. Je sais que je te rends malade.
Non, tu sais rien.
Ah, je sais.
Ah, ce que tu sais, c'est que tu sais très bien que je t'aime. Toi, tu ne m'aimes pas. C'est ça le problème.
C'est ça. C'est ça, je t'aime pas, ouais.
Tu t'imagines que ça ne se voit pas? Eh ben si, ça se voit. Je sais très bien que tu ne m'aimes pas. Tu ne penses jamais à moi. Tu ne penses qu'à toi. Tu penses à rien d'autre qu'à ton vieux bureau. Oh, il faut que j'aille au bureau. Il faut que j'aille au bureau. Il faut que j'y sois à l'aube, à mon cher, à mon temps, à mon adorable, mon amour de bureau. C'est tout ce que t'as à la bouche.
Bah quoi, c'est vrai. Je t'ai dit qu'il fallait que j'y sois de bonne heure demain matin. J'ai une journée atroce.
Oh, tais-toi.
Merci, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de ta part. Je suis vraiment très reconnaissant.
Gus ! Oh, Gus ! Qu'est-ce que tu fous, là ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne sert pas à boire, ici ? Amène deux spéciales. Essaye de te dépêcher un peu, tu veux ?
Pour l'amour du bon Dieu.
Je croyais que tu n'allais plus boire.
Qu'est-ce que ça peut te faire à toi ? Qu'est-ce que ça peut te faire si je bois ou non ? Je peux me saouler à mort pour ce que t'en as à faire. Tu t'en fous de moi.
Ne dis pas ça. Je m'en fous pas et tu le sais. Pas vrai ? Pas vrai que tu le sais ?
Honnêtement, tu tiens un tout petit peu à moi ?
Oh, chérie.
Peut-être que oui. Peut-être que tu tiens un tout petit peu à moi. Si tu tenais vraiment à moi, tu finirais ton verre. Comme ça, on pourrait en prendre un petit dernier. Allez, voilà, comme ça. Dis donc, t'as pas honte de m'avoir parlé sur ce ton ? Petite vilaine, va.
Oh.
Tu sais que tu m'es rentré dedans comme un vrai bulldog. Hein. Mm. Ah tiens, voilà Gus. Tiens, 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 si c'est pas mon vieil ami Gus, regarde ce qu'il nous apporte, regarde ce que Gus nous apporte, chérie. Allez, c'est parti pour un petit dernier, c'est un bon petit dernier celui-là, ouais, un petit dernier.
Oh, il est bon,
hein?
Il est bon celui-là, c'est le meilleur qu'on ait vu.
Mais bois-le vraiment, chérie, faut que t'arrêtes, oui, avec cette habitude de siroter tes verres, hein. C'est pour ça que tu te couches si tard. Si t'apprenais à boire vite, tu serais chez toi avant l'aube. Non mais sérieusement, Madouce. Tu veux te parler, j'ai envie de te parler sérieusement. Tu sais, sérieusement, tu devrais... Sérieusement, tu devrais... Qu'est-ce que je voulais dire? Attends. T'imagines, j'avais quelque chose de très 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 important à te dire et puis... Bah, ça m'est sorti de la tête. Attends. Par quoi j'ai commencé d'abord, hein?
Quand?
Attends. Ah non. Envolé. Oh, puis ça devait pas être si important que ça. Hein. Tant pis. Comment tu t'en sors avec ton verre, hein? Bah, tu sais ce qu'on va faire? Quand tu l'auras fini, ton verre, on va en prendre un petit dernier. Hé, chérie, tu te dépêches, oui? Honnêtement, on n'a pas toute la nuit. Hein. Faut que je dorme un peu. J'ai une journée horrible demain. Horrible, 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 horrible. Oh, Gus! Gus! Écoute, Gus. Et t'es mon ami, pas vrai? Alors, qu'est-ce que tu dirais de nous apporter deux autres spéciaux? Tu veux, Gus? Rien que pour moi et la copine. Mais tu la connais, la copine, pas vrai? Bien sûr que tu la connais. Bon alors, Gus, deux autres spéciaux.
Et ainsi de suite.
I am his forevermore. Oh, my man, I love him so, he'll never know. Oh, my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is right. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I come back on my knees someday for whatever my man is, I am his forever.
On a récemment fait remarquer à votre correspondante que lorsqu'elle se rend aux soirées, elle n'est pas l'aimant humain qu'elle pourrait être. En effet, il s'avère qu'en tant que source de divertissement, de convivialité et d'amusement, elle se situe à peu près entre une branche de persil et une paire de patins à glace dont il manque un patin. Il apparaît, au vu du comportement des convives, qu'elle est d'aussi chaleureuse compagnie qu'une infirmière de nuit. Je ne veux pas dire qu'on lui ait fait remarquer cela en ces termes. Pas encore. Bien qu'il y ait de fortes chances pour qu'un gentleman de ses connaissances, le genre de type qui se lâche après le quatrième anis et dit ses quatre vérités à tous ceux qui croisent sa route, se retrouve sous peu assis à ses côtés et commence par...
Tu sais ce qui ne va pas chez toi ?
Jusqu'à présent, elle est arrivée à ses déductions du fait que les invitations se sont mises à s'éteindre, comme des mouches. Tant et si bien que la plupart de ses soirées se passent à brosser le dos de ses amis et à ajuster leurs cravates selon les cas, en disant « Passez une bonne soirée et n'oubliez pas de me dire qui était là !» À leur dire au revoir en souriant, puis à avoir une bonne petite crise d'abandon. Quand il lui arrive tout de même d'être invité à une soirée, en vue de laquelle les autres n'ont pu que rédiger la liste d'invités en sortant les noms d'un chapeau, elle s'assied avec ses pensées dans un coin, le sourire aux lèvres, histoire de signifier qu'elle a envie, pathétique, de jouer elle aussi. Ou bien, elle écoute attentivement quelqu'un expliquer quelque chose, papier et crayon à l'appui, comme le déroulement de la guerre, depuis le 7 avril 1917 jusqu'à la fin d'après-midi de l'armistice. Aussi, étant de ceux qui finissent tout de même par comprendre au bout de la 30e fois, elle accepte sa défaite et se retire judicieusement de la scène de la société. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui chercherait à embaucher une jeune femme ? Jeune comparée au Grand Canyon. Plutôt libre et qui a le teint plutôt blanc à la lumière électrique pour s'occuper des enfants le soir afin de laisser la nounou prendre sa soirée. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas essayé d'améliorer sa condition, avant de conclure que c'était sans espoir. Bon, allez, ne faisons pas de chichi et passons à la première personne. J'ai tout fait, tout étudié pour améliorer ma condition et devenir la petite chérie de la société. Vous savez, j'ai été nourrie, dans ma jeunesse, de beaucoup d'histoires de bonnes femmes, qui m'ont appris que les hommes peuvent très bien détourner instantanément leur attention d'une jolie jeune femme pour s'intéresser à une femme qui brille par son esprit. Je dois vous dire qu'au fil de mon expérience, je n'ai jamais vu la chose se produire. Mais je me suis dit que je pourrais être la première fille à lancer la mode. Je pourrais devenir brillante. Je pourrais étinceler. Je pourrais envoûter toute une tablée. Je pourrais provoquer des bagarres entre tous ceux qui veulent se rapprocher de moi, tandis que les plus faibles, repoussés sur les côtés, s'écrieraient...
Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oh, s'il vous plaît. Dites-moi de répéter ce qu'elle vient de dire. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ?
J'ai pas compris.
Voilà, qu'est-ce que je ferais ? Oh, je peux déjà m'entendre. Bon. Quand notre héroïne s'est aperçue qu'elle était le fiasco de la saison en tant qu'esprit, elle a décidé de revenir à ce bon vieux standard, le sexe. Racontez toutes les histoires drôles que vous voulez, ai-je dit. Mais dégagez de mon chemin parce que moi, je vais être la nouvelle Garbo. Dans ce but, je me suis procuré un livre intitulé « The Technique of the Love Affair »,« Technique de séduction », signé « Une Gentlewoman » pour m'apprendre à m'emparer des hommes qui dansent. J'ai longtemps cru, ces derniers temps, que j'étais déprimée. Je croyais que j'avais marché main dans la main avec la tristesse. Mais j'ai compris, jusqu'à ce que je lise ce livre, que ma tristesse n'en était qu'à ses balbutiements. Je me suis rendu compte, dans les pages de cet ouvrage, que je n'avais jamais fait ce qu'il fallait. Pas une seule fois. Pas même une toute petite fois. Vous savez comment il faut être avec les hommes ? Il paraît qu'il faut toujours rester vague. Ne jamais leur faire savoir que vous les aimez bien. Ne jamais, mais alors jamais, leur faire sentir qu'ils sont de quelconque importance pour vous. Il faut rester enfermé dans ses pensées soucieuses et surtout ne jamais leur faire perdre de vue que vous êtes supérieur. Ne rien laisser passer de vos émotions. En gros, n'être rien d'autre qu'une chemise. Et si vous saviez ce que j'ai pu faire, moi ? Malgré son style abominable et ses longueurs ensablées, The Technique of the Love Affair tient, et j'en suis amèrement affolée, malheureusement debout. Si seulement ce livre avait pu être écrit et mis dans mes mains des années auparavant, peut-être aurais-je eu du succès, au lieu d'avoir successivement tout faux.
Je hais les femmes, elles me portent sur les nerfs. Il y a les femmes d'intérieur.
Ce sont les pires. Chaque instant est ficelé de bonheur. Elles respirent avec méthode et pour l'éternité se hâtent à grands pas vers la maison où il faut surveiller le dîner. Il y a aussi les douces qui disent avec un tendre sourire: l'argent ne fait pas le bonheur, et ne cesse de me faire admirer leur robe en me confiant: je l'ai faite moi-même. Et vont épluchant les pages féminines des magazines, toujours à essayer de nouvelles recettes. Oh, que je les hais, ces sortes de femmes.
Et puis il y a les petites fleurs sensibles, les pelotes de nerfs.
Elles ne ressemblent pas aux autres et ne se privent pas de vous le rappeler. Il y a toujours quelqu'un pour froisser leurs sentiments. Tout les blesse très profondément. Elles ont toujours la lame à l'œil. Ce qu'elles peuvent m'enquiquiner, celles-là, à ne jamais parler que de choses réelles, des choses qui importent vraiment. Oui, elles savent qu'elles aussi pourraient écrire. Les conventions les étouffent. Elles n'ont qu'une seule idée: partir. Partir loin de tout. Et moi, je prie le ciel. Oui, qu'elle foute le camp.
Et puis, il y a celles qui ont toujours des ennuis. Toujours.
En général, avec leur mari. On est injuste avec elles. Personne, jamais, ne les comprend, ces femmes. Elles arborent un petit sourire désenchanté. Et quand on leur parle, elles sursautent. Elles commencent par vous dire que leur lot est de souffrir en silence. Personne ne sera jamais. Et en avant le déballage.
Et puis il y a les madames, je sais tout.
Oh, elles sont la peste. Elles savent tout ce qui, de par le monde, arrive. Ils sont au régal de vous en informer. Il est de leur devoir de corriger les impressions fausses. Elles connaissent les dates de naissance et le second prénom de tout à chacun. Et leur être su la banalité factuelle. Pour moi, elles sont l'ennui. Il y a celles aussi qui s'avouent incapables de deviner pourquoi tant d'hommes sont fous d'elles. Elles disent qu'elles ont essayé, mais en vain. Elles vous parlent du mari d'un tel, enfin d'une telle, ce qu'il dit et sur quel ton. Ensuite, elles soupirent et demandent: chérie, en quoi cela d'ailleurs me concerne-t-il? Ne les détestez-vous pas, celles-là aussi?
Il y a celles enfin qui ont toujours le sourire aux lèvres.
Elles ne sont pas mariées, passent leur temps à distribuer de menus cadeaux, à préparer de petites surprises. Elles me conseillent de prendre comme elles les choses du bon côté. Ah, et que deviendraient-elles si elles venaient à perdre leur sens de l'humour? Et moi qui brûle de les étrangler, n'importe quel jury m'acquitterait. Je hais les femmes. Elles me portent sur les nerfs.
I ache for the touch of your lips, dear. But much more for the touch of your whips, dear. You can raise welts like nobody else as we dance to the masochism tango. Let our love be a flame, not an ember. Say it's me that you want to dismember. Blacken my eye, set fire to my tie as we dance to the masochism tango. At your command, before you here I stand, my heart is in my hand. Ugh. It's here that I must be. My heart entreats, just hear those savage beats, and go put on your cleats, and come and trample me. Your heart is hard as stone or mahogany. That's why I'm in such exquisite agony. My soul is on fire, it's aflame with desire, which is why I perspire when we tango. You caught my nose in your left castanet, love. I can feel the pain yet, love, every time I hear drums. And I envy the rose that you held in your teeth, love, with the thorns underneath, love, sticking into your gums. Your eyes cast a spell that bewitches. The last time I needed 20 stitches to sew up the gash that you made with your lash as we dance to the masochism tango. Bash in my brain and make me scream with pain, then kick me once again and say we'll never part. I know too well I'm underneath your spell, so darling, if you smell something burning, it's my heart. Excuse me. Take your cigarette from its holder and burn your initials in my shoulder. Fracture my spine and swear that you're mine as we dance to the masochism tango.
Merci Emmanuel Mehring pour nous avoir proposé cette émission. C'était donc une émission sur Dorothy Parker. Je te laisse peut-être présenter rapidement Dorothy Parker et les lecteurs de cette émission-là, Manu.
Oui, c'est une novelliste et journaliste américaine née en 1893 qui faisait partie de ce qu'on appelait la génération perdue. Donc elle était amie avec Francis Scott Fitzgerald, pas du tout amie avec Ernest Hemingway, ce qui lui vaut beaucoup de mérite. Et voilà, elle a passé beaucoup d'années à écrire avec tous ces gens-là dans un hôtel qui s'appelait l'Algonquin. Et cette réunion d'artistes s'appelait le cercle vicieux parce qu'à part manger et boire, ils n'ont pas produit beaucoup, beaucoup de choses sur cette période-là. Mais en tout cas, ils étaient là pour discuter littérature. Et voilà, et Dorothy Parker a écrit des nouvelles, des articles et des poèmes plutôt désespérés, toujours très ironiques. Et elle est décédée en 1967, toute seule. On l'a retrouvée 10 jours plus tard dans son appartement avec une bouteille de scotch et un de ses chiens. Du coup, la lecture aujourd'hui vous a été faite par Maxime Bozonnet,
oui,
Nicolas
moi.
Guépin,
oui.
Mathilde Deslois, Charlotte Chatouilleux et moi-même.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup à vous tous. On va faire un rapide point agenda parce que je crois que Nicolas, tu voulais parler rapidement d'une petite pièce.
Tout à fait.
Une grande pièce.
Bon, c'est 3 pièces courtes de Tchekhov. Il s'appelle Tchekhov au cube qui est au Carré 30 ce soir, demain et dimanche à 17h30. Ce soir et demain à 20h30. Voilà, c'est léger, c'est drôle. Je suis avec la grande Mélie Mélésassar et c'est mis en scène par le fabuleux Willy Play.
Et une autre petite recommandation, demain, de l'autre côté du pont, donc c'est le bar qui est à la Guillotière, et il y a la soirée, enfin l'après-midi, la soirée de soutien pour la compagnie Valdé qu'on avait accueillie il y a 2-3 semaines avec leur projet Blues Cat. Et ils nous proposent donc un happening théâtral, poético-burlesque, ça donne envie, et à la fin il y aura, à partir de 9h si je ne me trompe pas, un bal folk. Et dernière petite recommandation, jeudi prochain, on aura le plaisir de vous retrouver, Manu Mehring, enfin Emmanuel Mehring et moi-même Charlotte Touilleux dans le cadre de Novembre Libertaire pour une lecture d'un texte
féministe.
J'ai un gros coup, j'ai Dorothy Parker dans la tête. Non, ce n'est pas ça.
De Caryl Churchill.
Voilà, Top Girls. Et donc c'est le jeudi à partir de 20h30 à l'atelier des Canulars. Merci à tout le monde. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne semaine. Et puis à la semaine prochaine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.